La hache de Nottingham.
Le crime d'État a toujours besoin d'être couvert par une apparence de légalité. La source de la loi est dans le souverain, et la souveraineté appartient au peuple qui exerce celle-ci soit par le truchement d'une représentation élue, soit par une délégation héréditairement faite à un monarque, et parfois selon les deux manières ensemble, comme c'était le cas déjà pour l'Angleterre. Tout acte légal en ce pays devait donc comporter le consentement conjoint du monarque et du peuple, que ce consentement fût tacite ou exprimé. L'exécution du comte de Kent avait l'égalité de forme puisque les pouvoirs royaux étaient exercés par le conseil de régence, et qu'en l'absence du comte de Lancastre, tuteur du souverain, la signature revenait à la reine-mère. Mais cette exécution n'avait ni le consentement véritable d'un parlement siégeant sous la contrainte, ni l'adhésion du roi tenu dans l'ignorance d'un ordre donné en son nom. Un tel acte ne pouvait être que funeste à ses auteurs. Édouard III marqua sa réprobation autant qu'il le put en exigeant qu'on fît à son oncle Kent des funérailles princières. Comme il ne s'agissait plus que d'un cadavre, Mortimer accepta de déférer au désir du jeune roi. Mais Édouard ne pardonnerait jamais à Mortimer d'avoir disposé à son insu une fois de plus de la vie d'un membre de sa famille. Il ne lui pardonnerait pas non plus l'évanouissement de Madame Philippa à l'annonce brutale de l'exécution de l'oncle Kent. Or, la jeune reine était enceinte de 6 mois, et l'on aurait pu en user envers elle avec ménagement. Édouard en fit reproche à sa mère, et comme cette dernière répliquait avec irritation que Madame Philippa montrait trop de sensibilité pour les ennemis du royaume, et qu'il fallait avoir l'âme forte si l'on avait choisi d'être reine, Édouard lui répondit « Toute femme, madame, n'a pas le cœur aussi pierreux que vous. » L'incident pour Madame Philippa n'eut pas de conséquences, et vers la mi-juin, elle accoucha d'un fils. Édouard III en éprouva la joie simple, profonde et grave, qui est celle de tout homme au premier enfant que lui donne la femme qu'il aime et dont il est aimé. Du même coup, il se sentait comme roi brusquement mûri. Sa succession était assurée, le sentiment de la dynastie, de sa propre place entre ses ancêtres et sa descendance, celle-ci toute fragile encore mais déjà présente dans un berceau mousseux, occupait ses méditations et lui rendait de moins en moins supportable l'incapacité juridique dans laquelle on le maintenait. Toutefois, il était assailli de scrupules. Rien ne sert de renverser une coterie dirigeante si l'on n'a pas de meilleurs hommes pour la remplacer, ni de meilleurs principes à appliquer. Saurais-je vraiment régner? Et suis-je assez formé pour cela? Se demandait-il souvent. Son esprit demeurait marqué par le détestable exemple qu'avait fourni son père, entièrement gouverné par les Despenser, et l'exemple aussi détestable qu'offrait sa mère sous la domination de Roger Mortimer. Son inaction forcée lui permettait d'observer et de réfléchir. Rien ne se pouvait faire au royaume sans le Parlement, sans son accord spontané ou obtenu. L'importance prise ces dernières années par cette assemblée de consultation, réunie de plus en plus fréquemment, en tout lieu et à tout propos, était la conséquence de la mauvaise administration, des expéditions militaires mal conduites, des désordres dans la famille royale et de l'état de constante hostilité entre le pouvoir central et la coalition des grands féodaux. Il fallait faire cesser ces déplacements ruineux où lords et communes devaient courir à Winchester, à Salisbury, à York, et tenir des sessions qui n'avaient d'autre objet que de permettre à Lord Mortimer de faire sentir sa férule royaume. « Quand je serai vraiment roi, le Parlement siégera à date régulière et à Londres autant que se pourra. L'armée ? L'armée n'est point présentement l'armée du roi, ce sont des armées de barons qui n'obéissent que selon leur gré. Il faudrait une armée recrutée pour le service du royaume et commandée par des chefs qui ne tiennent leur pouvoir que du roi. La justice. » La justice demande d'être concentrée dans la main souveraine, qui doit s'efforcer de la faire égale pour tous. Au royaume de France, quoi qu'on dise, l'ordre est plus grand. Il faut aussi donner des ouvertures au commerce dont on se plaint qu'il soit ralenti par les taxes et interdictions sur les cuirs et les laines qui sont notre richesse. C'étaient là des idées qui pouvaient paraître fort simples, mais cessaient de l'être du fait qu'elles logeaient dans une tête royale, des idées quasi révolutionnaires, en un temps d'anarchie, d'arbitraire et de cruauté, comme rarement nation en connue. Le jeune souverain abrimé rejoignait ainsi les aspirations de son peuple opprimé. Il ne s'ouvrait de ses intentions qu'à peu de personnes, à son épouse Philippa, à Guillaume de Mouny, l'écuyer qu'elle avait amené de Hainaut avec elle, à Lord Montagu surtout, qui lui traduisait le sentiment des jeunes lords. C'est souvent à 20 ans qu'un homme formule les quelques principes qu'il mettra toute une vie à appliquer. Édouard III avait une qualité majeure pour un homme de pouvoir, il était sans passion et sans vice. Il avait eu la chance d'épouser une princesse qu'il aimait, il avait la chance de continuer à l'aimer. Il possédait cette forme suprême de l'orgueil qui consistait à tenir pour naturelle sa position de roi. Il exigeait le respect de sa personne et de sa fonction. Il méprisait la servilité parce qu'elle exclut la franchise. Il détestait la pompe inutile parce qu'elle insulte la misère et qu'elle est le contraire de la réelle majesté. Les gens qui avaient séjourné autrefois à la cour de France disaient qu'il ressemblait par beaucoup de traits au roi Philippe le Bel. On lui trouvait même forme et même pâleur de visage, même froideur des yeux bleus, quand parfois il relevait ses longs cils. Édouard était plus communicatif et enthousiaste, certes, que son grand-père maternel, mais ceux qui parlaient ainsi n'avaient connu le roi de fer qu'en ces dernières années, à la fin d'un long règne. Nul ne se rappelait ce qu'avait été Philippe le Bel à 20 ans. Le sang de France, en Édouard III, l'avait emporté sur celui des Plantagenets, et il semblait que le vrai Capétien fût sur le trône d'Angleterre. En octobre de cette même année 1330, le Parlement fut à nouveau convoqué à Nottingham, cette fois dans le nord du royaume. La réunion menaçait d'être houleuse. La plupart des lords gardaient rancune à Mortimer de l'exécution du comte de Kent, dont leur conscience demeurait alourdie. Le comte de Lancastre, au Torscol, qu'on appelait maintenant le vieux Lancastre, parce qu'il avait réussi le prodige de conserver sur ses épaules jusqu'à 50 ans sa grosse tête penchée, Lancastre, courageux et sage, était en fin de retour. Atteint d'une maladie des yeux qui, depuis longtemps menaçante, s'était brusquement aggravée jusqu'à la demi-cécité, il lui fallait faire guider ses pas par un écuyer. Mais cette infirmité même le rendait encore plus vulnérable, et l'on sollicitait ses avis avec davantage de déférence. Les communes s'inquiétaient des nouveaux subsides qu'on allait leur demander de consentir et des nouvelles taxes sur les laines. Où donc passait l'argent ? Les 30 000 livres du tribut d'Écosse. À quel usage Mortimer les avait-il employés? Était-ce pour son profit ou celui du royaume qu'on avait mené cette dure campagne 3 ans plus tôt? Et pourquoi avoir gratifié le triste baron Maltravers, outre sa charge de sénéchal, d'une somme de 1 000 livres pour salaire de la garde du feu roi, autrement dit du meurtre? Car tout se sait ou finit par se savoir, et les comptes du trésor ne peuvent rester éternellement secrets. Voilà donc à quoi servait le revenu des taxes. Et Ogle et Gournay, les assesseurs de Maltravers, et Devril, le gouverneur de Corfu, en avaient reçu autant. Mortimer, qui, sur la route de Nottingham, s'avançait en un tel train de splendeur que le jeune roi lui-même semblait faire partie de sa suite, Mortimer n'était plus soutenu réellement que par une 100aine de partisans qui lui devaient toute leur fortune, n'étaient puissants que de le servir et risquaient la disgrâce, le bannissement ou la potence si lui-même venait à tomber. Il se croyait obéi parce qu'un réseau d'espions jusqu'auprès du roi, en la personne de John Wynyard, l'informait de toutes les paroles prononcées et faisait hésiter les conjurations. Il se croyait puissant parce que ses troupes imposaient la crainte aux lords et aux communes. Mais les troupes peuvent marcher à d'autres ordres et les espions trahir.